regarder la réalité. Moi, j'ai voulu regarder la réalité en face.
C'est cela, oui.
Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant.
Ta gueule !
Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi au petit matin, glauque.
Je tiens à dire que c'est un mensonge.
L'esbrouf, c'est vous.
Du calme, camarade.
La République, c'est la fermeté dans l'application de la loi.
J'hallucine.
Mais je ne sais pas pourquoi tu t'énerves.
C'est que les affaires privées se traitent en privé.
Je vais vous faire une confidence. Je me lève le matin et je me couche le soir.
Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique.
Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Politique. À moins de 2 mois maintenant du premier tour des élections régionales, nous recevons Nathalie Arthaud, tête de liste Lutte Ouvrière en Ile-de-France.
L'Hebdo Politique, Nicolas Kirilovitz.
Nathalie Arthaud, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez 45 ans, fille de garagiste, vous êtes originaire de la Drôme. Vous vous engagez très tôt en politique en lisant le manifeste du Parti communiste écrit par Karl Marx. Vous avez le déclic à cette époque et après avoir rencontré des militants de Lutte Ouvrière, vous adhérez à ce parti. Vous n'avez alors que 18 ans. Qu'est-ce qui vous a convaincu concrètement quand vous aviez 18 ans de rejoindre Lutte Ouvrière ?
J'étais révoltée par la famine en particulier dans le monde. Depuis déjà mes 16 ans, j'avais envie de changer ça. Je ne comprenais pas d'ailleurs pourquoi la société n'était pas capable de régler ce problème. Parce que je voyais quand même que les richesses étaient très nombreuses, que même nos poubelles débordaient. Donc je me suis toujours dit que j'allais essayer de changer cela. Et puis c'est vrai, quand j'ai rencontré, que j'ai découvert plus précisément les idées communistes, là j'ai compris qu'il y avait une force sociale, que les travailleurs s'étaient battus souvent, à multiples reprises, avaient fait avancer la société, et qu'avec ce levier-là, oui, on pouvait sans doute changer du tout au tout cette société, la réorganiser sur d'autres bases, sur des bases collectives, de façon à ce que l'intérêt de tous soit préservé, et pas seulement à l'échelle de la France d'ailleurs, à l'échelle du monde, parce que j'ai toujours eu cette vision que voilà, il y a une seule et même humanité, et ma révolte, c'est pas seulement la misère ou le chômage ici. C'est aussi ce qui se passe dans le monde depuis toujours.
Alors parallèlement à votre métier, vous êtes professeur d'économie et de gestion. Alors parallèlement à ce métier-là, vous faites votre chemin en politique. En 2001, vous vous présentez au municipal à Vaux-en-Velin. En 2002, aux législatives et en 2004, au régional. Sans succès, en 2007, vous devenez la porte-parole d'Arlette Laguiller, qui est alors candidate à la présidentielle. En 2008, vous êtes élue conseillère municipale dans la même ville, à Vaux-en-Velin. Et cette même année, vous devenez aussi porte-parole nationale de Lutte Ouvrière. En 2009, vous êtes tête de liste aux élections européennes dans la circonscription sud-est. En 2010, vous vous présentez au régional en Rhône-Alpes. En 2012, on continue, vous êtes candidate à la présidentielle. Enfin, en 2014, vous êtes tête de liste aux européennes en Ile-de-France. Je n'ai rien oublié en termes de parcours politique, aucune élection.
Peut-être quelques-unes.
En tout cas, un parcours bien rempli. Et cette année, vous êtes donc candidate au régional en Ile-de-France. On va parler de vous, de votre parti et de votre programme pour les régionales. Mais tout de suite, c'est l'heure du Money Time.
L'hebdo politique, Nicolas Kirilovitz.
Alors le Money Time, c'est des questions-réponses assez rapides pour apprendre à mieux vous connaître et avoir votre point de vue sur des questions d'actualité. Plus de 710 000 migrants sont entrés en Europe depuis le début de l'année. Faut-il mettre en place une taxe européenne pour financer la crise des migrants ? On en parle à ce moment, c'est une idée qui circule. Est-ce que vous en pensez quoi ? Est-ce que c'est une bonne idée selon vous ?
Non, mais moi je crois que l'idée la plus simple et la plus humaine, c'est tout simplement qu'on donne aux migrants la liberté de circulation et la liberté d'installation. Parce que tout ce qu'ils cherchent, c'est un endroit où ils pourront vivre, où ils pourront travailler et tout simplement avoir un avenir, eux, leurs enfants. Donc qu'on leur laisse cette liberté-là. Vous savez, les migrants ne sont pas venus demander la charité, l'assistance, juste un endroit pour vivre, parce qu'aujourd'hui ils sont confrontés aux bombes, ils sont confrontés à ces camps dans le désert où ce n'est pas la vie, c'est la survie. Donc ils cherchent juste un endroit sur cette terre où ils pourront mener une vie digne.
Suite aux agressions de plusieurs dirigeants d'Air France, 5 salariés soupçonnés d'être les auteurs de ces violences seront jugés en correctionnel au début du mois de décembre. Méritent-ils d'être sanctionnés selon vous ? Sont-ils allés trop loin ?
Non, ils ne méritent pas ça, sûrement pas ça. Et j'ai été franchement choquée écœurés même par le matraquage dont ils ont été victimes. Il y a eu un matraquage politique, il y a eu un matraquage médiatique, et aujourd'hui la justice s'acharne sur eux. Écoutez, on voit que vraiment, là, vous voyez, c'est la preuve que la lutte de classe, elle se mène, et elle est menée par le patronat et par le gouvernement avec tous les moyens de l'appareil d'État, avec la police, avec la justice, parce que là, il s'agit quand même de salariés qui ont fait sacrifice sur sacrifice, qui touchent, beaucoup sont dans le fret à Air France, ils touchent 1 800 € par mois, ils travaillent les week-ends, les dimanches, ils n'ont pas de jours fériés, et on leur dit qu'il va y avoir comme ça des licenciements.
Vous essayez d'excuser ou d'expliquer finalement cette situation ?
Mais moi je comprends le coup de colère qui s'est emparé d'eux, ça je comprends, j'en suis complètement solidaire, et je vais vous dire que je suis surprise même qu'il n'y en ait pas plus de coups de colère. Parce que quand on voit que le monde du travail est systématiquement attaqué, mais sur leurs conditions de travail, sur le temps de travail, sur les salaires, qu'il subit chantage sur chantage, alors qu'il y a de l'argent dans la société, que ces grands groupes y font des profits, y font des bénéfices, ils arrosent leurs actionnaires. Et bien moi, je suis surprise qu'il n'y ait pas plus de réactions comme ça. Alors j'espère, et je milite moi, pour que ces réactions, elles soient collectives, qu'elles soient conscientes, qu'elles
sans
soient
violence.
Organisées. Moi, je pense que l'efficacité, c'est le rapport de force qu'on arrive à construire. C'est effectivement d'être nombreux, c'est de faire valoir ses droits collectivement, en montrant... les travailleurs ont une force. C'est celle de tout faire dans la société, de faire tourner l'économie. Donc quand ils font grève, quand ils manifestent, oui, ils pèsent sur justement le patronat. Et c'est comme ça qu'il faut peser, et c'est comme ça qu'on sera efficace.
On change de sujet. J'ai lu que vous aimiez beaucoup lire et que vous aviez toujours un roman dans la poche. Alors je ne sais pas si c'est le cas maintenant, mais quel livre êtes-vous en train de lire en ce moment ?
Oui, c'est le cas maintenant. Je suis en train de lire...
Quand je disais maintenant, c'était pendant l'émission. Vous êtes en train de lire, du coup ?
Je suis en train de lire...
Un trou de mémoire peut-être, non ?
Oui, c'est un roman italien, très 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 beau. J'ai plus le titre en tête parce que parfois je l'oublie, mais voilà, je suis très accrochée.
En tout cas, vous êtes en train de lire un bouquin. L'enseignante que vous êtes est-elle contre la réforme du collège ? Et si oui, pourquoi ? Est-ce que vous avez manifesté déjà le week-end passé ?
J'ai manifesté déjà à plusieurs reprises contre cette réforme, parce que ce gouvernement, effectivement, met en avant tout un tas de réformes, mais il y a une chose qui se refuse à faire, c'est de mettre les moyens qu'il faudrait dans le collège. Et on voit qu'au contraire, il fait pression sur les enseignants pour casser un certain nombre de choses qui marchent. Mais il suffit d'écouter les enseignants dans les collèges, mais aussi dans l'école primaire. Ce dont on a besoin, c'est plus de personnel, plus d'enseignants, plus de possibilités de travailler en petits groupes, de faire du sur-mesure pour chaque élève, pour chaque jeune, et pour les entraîner, parce qu'on peut faire plein de choses
avec
les jeunes.
C'est parce que tant à faire cette réforme du collège ?
Mais non, pas du tout, parce que c'est pas de moyens supplémentaires, donc impossible de travailler avec des petits groupes, ça va casser un certain nombre de choses qui marchent, et vous voyez, j'ai encore entendu la ministre de l'Éducation nous parler de faire disparaître les notes, tout ça c'est des des décisions mais qui n'en sont pas en réalité, pour faire croire qu'on essaye de changer les choses, d'améliorer les choses, mais sans toucher au problème fondamental qui est que les jeunes qui ont du mal, qui sont en échec, eh bien on ne peut pas travailler avec eux, on ne peut plus les rattraper parce que tout simplement on n'a pas les moyens de le faire quand on est dans des classes à 27, 30, 35.
Le réseau social américain Twitter va supprimer 8% de ses effectifs, plus de 300 emplois. Est-ce que vous êtes déjà sur Twitter et est-ce que vous suivez cette vague des réseaux sociaux ? Est-ce que c'est important pour vous aujourd'hui ?
Je suis sur Twitter depuis pas très longtemps. Donc,
vous n'êtes pas forcément très active ?
Pour l'instant, j'essaye effectivement d'utiliser aussi ce moyen de communication. Maintenant, vous savez, nous, on est une petite organisation, un petit parti, donc il faut faire beaucoup de choses. Et c'est vrai que, des fois, c'est pas facile de tout faire en même temps. Bon, maintenant, on utilise tous les moyens. Mais voyez, là encore, vous avez parlé des licenciements dans ce groupe qui doit brasser des milliards, je suppose, comme tous ces grands groupes de la communication. Et ça, par contre, je trouve que c'est écœurant.
L'hebdo politique sur Sensation.
Premier thème de cet hebdo politique, on va parler de votre parti politique Lutte Ouvrière, présent dans 12 des 13 nouvelles régions, sauf en Corse. Alors ma première question, pourquoi pas en Corse ?
Bien parce qu'on n'avait pas les moyens de se présenter en Corse, tout simplement, de faire une liste et puis de faire une véritable campagne. Parce que pour nous, c'est quand même ce qui est décisif, c'est d'utiliser ce temps de discussion politique pour discuter avec les travailleurs, avec les classes populaires, dans les entreprises, dans les quartiers. Donc on le fait partout où on a des militants, des forces pour le faire.
Et c'est pas forcément le cas en Corse.
Et c'est pas le cas en Corse.
Dans le reste des régions, est-ce que ça a été plutôt simple de constituer ces listes à chaque fois ? Qui constitue d'ailleurs la plupart de ces listes ? C'est
oui.
Des ouvriers ?
Oui,
des salariés,
alors des ouvriers, des fois aussi des ouvriers en retraite, des enseignants, des facteurs, des gens qui travaillent à la poste, dans les hôpitaux, j'en oublie, dans la métallurgie, enfin bon, on a la parité, y compris dans les têtes de liste, parce que vous voyez, ça c'est quelque chose que les grands partis ne font pas. Hein, en général, les positions éligibles et de têtes de liste sont occupées par les hommes, et bien pas chez nous, à lutte ouvrière. Donc oui, c'est
une... Ça n'a pas été compliqué de constituer ces listes ?
Non, ça n'a pas été compliqué. Et encore une fois, pour nous, c'est pas une carrière en politique. Pour aucun de ceux qui sont sur ces listes, c'est un engagement militant. Et c'est une façon de dire à tous les salariés, nos camarades de travail qui nous entourent, que nous pensons qu'il faut se saisir des élections pour faire entendre notre voix nous-mêmes. Que tous ces grands partis institutionnels, professionnels, eh bien, ils ne nous représentent pas. Il faut que les travailleurs eux-mêmes prennent la parole et interviennent dans tous ces combats politiques.
Vous parliez de militants aujourd'hui. Combien Lutte ouvrière peut-il revendiquer de militants à peu près ? Est-ce que c'est un chiffre stable aussi ?
Oui, c'est assez stable depuis plusieurs années. On est autour de 8000 militants dans notre organisation. Donc,
c'est presque un exploit du coup avec 8000 militants de réussir à être présents dans 12 des 13 régions.
Non, parce que, écoutez, il y a militants, il y a des sympathisants, on a tout un réseau autour de nous qui va bien au-delà de ce chiffre de 8000. Et vous savez, là, il faut 1600, je crois, candidats. Donc, ouais. Au municipal, nous avions présenté déjà 9000 candidats. Donc, on a un réseau de sympathie. Vous savez, on est petit, d'accord, mais il y a une fraction dans la classe ouvrière qui pense que oui, c'est tout à fait c'est nécessaire, justement, de faire entendre une voix, le camp des travailleurs, de faire entendre les perspectives propres aux travailleurs, leurs objectifs, là, immédiats, c'est sur les salaires, sur les emplois, sur les conditions de travail, mais aussi la perspective à plus long terme, celle de contester ce pouvoir de ce grand patronat qui se permet tout aujourd'hui, en France, dans le monde, hein, de les contester, de dire que cette société qui est basée sur la recherche du profit, sur la course à la rentabilité, sur la concurrence, eh bien, elle ne va pas dans le sens des intérêts des travailleurs, et que ça, il faut le changer. Donc, de contester le pouvoir de la bourgeoisie.
Quelle est votre audience aujourd'hui ? Vous appelez lutte ouvrière, c'est-à-dire que vous cherchez à parler aux ouvriers uniquement, ou par exemple, un entrepreneur peut tout à fait rentrer, écouter votre discours et rentrer dedans ?
Nous faisons une différence, hein, nous, entre les salariés, les ouvriers, les employés qui n'exploitent personne, qui doivent vendre leur force de travail, qui doivent trouver acheteurs, n'est-ce pas ? Parce que sans cela, bah, vous ne pouvez pas vivre, vous êtes condamnés à la misère, en fait, hein, et à la marginalisation sociale. Donc nous avons la différence entre les salariés, qui vivent uniquement de leur travail, et ceux qui vivent du travail des autres, qui exploitent d'autres salariés.
Un entrepreneur, un patron, par exemple, d'une petite entreprise, d'une PME, ne rentre pas là-dedans.
Nous ne représentons pas leurs intérêts. Nous savons bien que les petites entreprises, elles peuvent avoir des difficultés, elles peuvent subir la loi des plus gros. Et en même temps, ces petites entreprises, elles rêvent de grossir et elles rêvent de tirer leur épingle du jeu dans ce système. Nous contestons le système lui-même. Nous disons que justement, ce système, c'est la guerre économique, la guerre des gros contre les petits, mais aussi la guerre, justement, des exploiteurs contre les exploités.
C'est un
la
mot
guerre
fort, quand même,
des
la
licencieurs.
Guerre.
C'est la guerre, oui. Vous savez, quand on vous dit que demain, vous perdez votre emploi, ça met votre vie par terre. Alors d'accord, c'est une décision qui est prise peut-être dans un bureau très feutré, avec très 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 bien mis. C'est juste une petite signature au bas d'une page. Ça ne nécessite pas de lever la voix, n'est-ce pas ? Mais ça, c'est un coup qui est pris dans la figure du salarié en question, parce que c'est toute sa vie qui est bouleversée. C'est tous ses projets, c'est l'espoir de pouvoir payer des études à ses enfants, c'est l'impossibilité de faire face au crédit qu'il a pris pour son appartement ou pour sa maison, c'est tout ça. Donc ce sont des coups, c'est une violence. La réalité, c'est que c'est ça.
Et aujourd'hui, quand vous voyez... Est-ce que la guerre, ça appelle à la violence, justement ?
C'est la guerre sociale. Ah bah, la guerre sociale, forcément, ça engendre des réactions. Mais moi, j'appelle ça des retours de bâton, voilà, tout simplement. Vous savez, je crois que voilà, qui sème effectivement la misère récolte la colère. Et moi, j'espère que cette colère, elle va effectivement s'exprimer et j'espère qu'elle sera féconde. C'est-à-dire qu'elle permettra de remettre en cause profondément la société et de la remettre sur ses pieds, de faire en sorte que ceux qui travaillent, qui font les richesses, qui font vivre cette société, les ouvriers, mais aussi les instituteurs, les infirmières, ceux qui conduisent les bus, tous ceux qui font cette société-là, puissent aussi décider et qui mettent en avant leurs intérêts. Et par exemple, l'intérêt qu'on se répartisse le travail au lieu de condamner ceux qui sont au travail, de travailler toujours plus, toujours plus dur, avec des horaires insupportables, et puis l'autre fraction d'être condamné au chômage. Donc voilà, de faire en sorte que cette colère, eh bien, elle change. Elle change en profondeur la société.
La révolution du prolétariat, c'est toujours d'actualité. C'est ce qu'on peut lire sur le site internet de Lutte Ouvrière. Sont de vieilles idées qui ont presque un siècle maintenant, même qui ont un siècle maintenant.
Oui.
Est-ce que c'est toujours d'actualité?
Moi, je crois qu'elles sont plus...
Plus qu'avant?
Plus que jamais d'actualité. Je crois que la société, elle est de plus en plus barbare et inhumaine. Regardez ces guerres, regardez justement le sort qui est fait aux migrants. On est en train de claquer la porte là, au nez de dizaines, de centaines de milliers de gens. On leur dit, vous n'avez qu'à crever. C'est ça qu'on leur dit aujourd'hui. On leur dit, vous n'avez qu'à rester en Jordanie, vous n'avez qu'à rester sous les bombes. On leur dit ça. Les guerres, c'est... Et qu'est-ce qu'on dit aux 6 millions de chômeurs?
Votre discours, vous faites à peine 1% aux dernières présidentielles. Est-il encore audible, ce genre de discours? Est-ce qu'il ne faut pas évoluer, tout en gardant peut-être la même genèse, mais évoluer?
Mais
se moderniser?
Moi, ce n'est pas parce que nous faisons 1%, dans le jeu électoral, qui est un jeu aussi bien spécial, bien cadré, que nous ne disons pas la vérité.
Ce n'est pas fait forcément pour des petites...
Et ce n'est pas parce que nous faisons 1% que nous avons tort. Quand nous disons que c'est insupportable de voir ces richesses s'accumuler à un pôle et de voir tous ces sacrifices qu'on demande aux classes populaires, eh bien c'est une réalité.
Est-ce qu'il ne faudrait pas le dire autrement, peut-être?
Autrement. Oh, oui, alors parler de quoi? Mentir en
disant... C'est pas moi qui vais apporter la solution.
Mentir en disant qu'il y a du dialogue social et que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes? Non. Nous dirons, nous continuerons de dire. Maintenant, vous savez, nos petits scores électoraux, ils sont indépendants en réalité de ce que peuvent ressentir et même du degré de révolte aujourd'hui dans le monde ouvrier.
Qui s'exprime dans les urnes, c'est ça qui compte in fine pour pouvoir après appliquer vos solutions.
Et donc nous essayons de convaincre que c'est utile justement de l'exprimer dans les urnes. Mais en même temps, c'est difficile aussi pour d'aller à contre-courant de tout ce qu'on nous explique sur le vote utile, sur l'électoralisme, sur le fait que voilà, quand on vote, on vote pour éliminer le pire, par exemple. Tout ça, c'est assez ancré aussi dans les têtes de tout le monde. Donc, c'est pas évident. Beaucoup aussi, dans le monde ouvrier, s'abstiennent du fait de leur écœurement. Donc, nous disons, il faut que cette colère, elle se traduise non pas en abattement, non pas en passivité, mais qu'elle se traduise justement en action. Et la première action, c'est déjà de dire ce que l'on pense. Donc de s'exprimer, et pas en choisissant des partis qui sont en fait du côté du patronat, du côté des puissants, mais en choisissant effectivement une voie qui représente le monde ouvrier.
Alors je sais pas si c'est le cas pour le Front National, mais en tout cas, les ouvriers semblent se tourner de plus en plus vers le Front National. Selon un récent sondage IFOP pour le JDD, ils sont la moitié à estimer, les ouvriers et les employés, que Marine Le Pen les comprend. Comment expliquez-vous cela? Est-ce que c'est quelque chose qui vous attriste également?
Il faut faire attention avec ces chiffres, parce que jamais on ne parle de l'abstention. Et puis quand on parle du corps électoral, je vous rappelle aussi que ce corps électoral, il élimine tous ceux qui n'ont pas le droit de vote. Et il y en a beaucoup. Et ça fait partie aussi d'une sous-représentation justement de la classe ouvrière
au niveau électoral. Vous le reconnaissez, il y a un mouvement.
Je reconnais qu'effectivement, le Front National gagne de l'influence dans le milieu ouvrier.
Comment vous l'expliquez,
ça? Ça nous pose, nous, un gros problème, parce que le Front National, c'est l'ennemi ouvert des travailleurs, de la classe ouvrière. Parce qu'en fait, quand
plus
on
que
écoute...
les autres partis d'ailleurs.
Oui, parce que quand on écoute Marine Le Pen, elle ne s'en prend jamais au patronat, jamais à ceux qui ont de l'argent, jamais à ceux qui ont mis l'économie au bord du gouffre, jamais aux banquiers qui sont responsables de la crise. Elle s'en prend à qui ? À d'autres travailleurs.
Ça parce lui que, arrive quand même de dénoncer
parce que ils sont sans papier,
le monde politico-médiatique, banquier aussi,
monde
financier.
Non, mais quand elle dénonce, quand elle se dit anti-système, c'est anti-système politique. C'est les politiciens qu'elle vise. Mais c'est jamais le véritable pouvoir. L'ordre social capitaliste, la domination de la bourgeoisie, elle ne la remet pas en cause. L'exploitation, elle n'a rien contre. Hein. Elle est, d'ailleurs, voyez la position qu'elle a eue par rapport à Air France, qui a consisté à condamner... à hurler avec les loups comme tous les autres, les salariés d'Air France, eh bien c'était révélateur à cet égard. Donc voilà, quand elle explique que ce sont des travailleurs qui sont menaçants pour d'autres travailleurs parce qu'ils sont étrangers, parce qu'ils font de la concurrence, eh bien ça, c'est la preuve qu'elle est l'ennemi des travailleurs parce qu'elle les divise, elle les affaiblit, alors que les travailleurs, au contraire, ont besoin d'être unis.
La bataille idéologique avec le Front National est-elle en train de basculer du côté du Front National ?
Moi, je crois qu'il y a une réaction... Hein, dans le monde ouvrier et même dans l'ensemble des classes populaires parmi les chômeurs.
Il y a un nouveau basculement.
Il y a une réaction de rejet. Ils rejettent
ils ont
la
essayé,
droite.
Finalement,
ils rejettent la droite. Ils rejettent la gauche. Parce qu'effectivement, à chaque fois que ces gouvernements de droite ou de gauche ont gouverné, eh bien, ils ont laissé les chômeurs dans la galère. Ils ont laissé les travailleurs confrontés justement à cette rapacité patronale. Ils n'ont fait que faire reculer les droits des travailleurs et des classes populaires. Et finalement, ils se sont fait complices de cette espèce d'immense mécanisme qui accumule les richesses à un pôle. Donc là, les classes populaires le voient et ils les rejettent massivement. Et dans ce rejet, eh bien, ils ont un peu ce réflexe de dire finalement quel est celui que nous n'avons pas essayé. Vous savez, un petit peu comme les charlatans qu'on trouve sur le marché, on essaye celui-là, puis on se dit, y a celui-là que je n'ai pas essayé. Mais le problème, c'est que voilà, le Front National,
c'est un
charlatan comme les autres. Et s'il était au pouvoir, eh bien, il gouvernerait bien sûr en fonction des intérêts de ces grands groupes capitalistes. Exactement comme les autres. Avec nuance près que justement ce sera encore plus un gouvernement encore plus autoritaire et encore plus anti-ouvrier peut-être même que les autres.
Revenons sur les élections régionales. Vous avez estimé bon de partir tout seul, vous ne faites alliance avec personne dans aucune région. Pourquoi est-ce que vous croyez à la victoire dans toutes ces régions de façon autonome?
Parce que nous voulons faire entendre le camp des travailleurs.
Et personne ne le fait autre part.
Prenez le Parti Socialiste. Prenez la droite, prenez le Front National.
Je pensais d'abord au Front de gauche.
Ils sont tous du côté du patronat. Nous disons aux travailleurs, il faut faire entendre nos voix à l'opposé de tout ce qu'on nous raconte sur les 35 heures, sur le code du travail, sur la flexibilité, sur le temps, etc.
C'est toujours le même débat.
À l'opposé, voilà. Donc, il faut qu'on fasse entendre, il faut que les travailleurs qui n'en peuvent plus, qui veulent le dénoncer, fassent entendre leur voix. Et donc, c'est partir des intérêts des travailleurs. Partir de leurs intérêts et centrer notre campagne là-dessus. Et dire, oui, il y a une lutte de classe dans la société. Nous, nos intérêts et nos revendications sont celles-ci. Par rapport au chômage, par rapport aux conditions de travail, par rapport au salaire aussi. Et ça, je suis désolée, ce n'est pas la campagne du Front de gauche.
Qui pourtant se détache de plus en plus du Parti Socialiste, qui dit qu'une alliance avec le Parti Socialiste est devenue impossible. Eux s'estiment être la vraie gauche, pour
oui,
vous c'est faux.
Oui, mais quand vous voyez qu'y compris le Front
c'est
de gauche...
C'est vous la vraie gauche ? Est-ce que finalement c'est vous la vraie gauche ?
Nous sommes communistes révolutionnaires. Et vous savez, on ne va pas reprendre ce mot, la gauche.
Il y a le Parti communiste dans
le
Front de gauche.
Qu'est-ce que ça représente,
vous
la gauche ?
Tous les deux communistes.
Eh ben, le Parti communiste, il a encore le mot communiste dans son appellation, mais ça fait bien longtemps qu'il ne met plus en avant cette nécessité de renverser l'ordre capitaliste. Et nous, c'est ce que nous faisons justement, y compris dans cette campagne pour les régionales. Nous disons effectivement mettre en avant les objectifs immédiats des travailleurs et ces perspectives-là de contester le pouvoir du grand patronat et de leur enlever ce pouvoir de nuisance qu'ils ont sur toute la société. Et encore une fois, ce n'est absolument pas la démarche des listes Front de gauche qui d'ailleurs parfois font campagne avec les écologistes parce qu'ils veulent mettre en avant les problèmes écologiques. Eh bien non, nous, c'est les problèmes des travailleurs et tous ceux qui se reconnaîtront dans cette nécessité de mettre en avant le camp des travailleurs, eh bien ils pourront le faire en votant pour les listes lutte ouvrière. Vous comprenez ? On a eu les médecins qui se sont mobilisés il n'y a pas bien longtemps. On a eu les agriculteurs qui se sont mobilisés. Là, aujourd'hui, y compris, c'est les policiers qui se mobilisent. Bon, mais les travailleurs, ils ont à se mobiliser, ils ont à affirmer leurs intérêts, leurs droits quand même dans cette société. Tout de même, ils sont à la base de tout.
Et pourtant, hein, ils sont à la base de tout.
Ils sont légitimes.
Il y a...
Ils ne le font pas. Et c'est un des problèmes. C'est que les travailleurs n'interviennent pas assez dans le combat politique, justement.
Là, c'est un message que vous faites passer. Vous leur dites de se mobiliser.
De se mobiliser, d'affirmer, déjà de dire, déjà de faire porter leur voix. Parce qu'il y a des luttes, parfois, mais parfois, il n'y a pas de lutte. Hein, des grèves, parfois il
n'y
a pas
cela?
Cette possibilité de faire entendre sa voix au travers des grèves ou des manifestations, mais là il y a un combat politique, et dans ce combat politique nous disons au travers, il faut qu'ils interviennent derrière leurs objectifs et que leurs intérêts ne passent pas sous la table au nom d'un intérêt supérieur, l'intérêt de la France, l'intérêt de l'entreprise, parce que comme par hasard, l'intérêt de l'entreprise c'est jamais d'augmenter les salaires, c'est jamais d'embaucher, jamais, jamais. L'intérêt de l'entreprise, c'est toujours, au bout du compte, d'arroser les actionnaires, de payer les PDG 200, 300 fois le SMIC, c'est toujours ça. Donc il faut arrêter avec ça, dire, bah non, nous on a des intérêts bien particuliers, les intérêts des exploités, que le chômage soit combattu réellement. Voilà, c'est ce que nous proposons aux électeurs dans cette campagne régionale.
Et en Ile-de-France, on vous crédite de 1% d'intention de vote pour l'instant. Est-ce que c'est une chose à laquelle vous faites attention? Est-ce qu'il y a un score aussi qui vous ravirait pour porter pour le second tour, pourquoi pas, des idées pour peser sur le débat?
Nous n'allons pas adapter notre discours au sondage. Nous avons des convictions, nous les mettons en avant. Tout simplement. Et nous ne sommes pas des girouettes. Je sais bien que beaucoup décident de leur programme comme ça, en écoutant les sondages. Et puis alors, du coup, ils partent dans une direction. Vous savez, c'est un petit
c'est
peu...
C'est quand même essentiel pour un parti politique.
Un commercial qui veut vendre sa camelote va mettre en avant tel ou tel aspect, etc. Mais nous, nous avons des convictions. Nous ne sommes pas des girouettes. Et nous les mettons en avant, voilà. Et nous allons permettre à tous ceux, à cette fraction du monde ouvrier, du camp des travailleurs qui sent nécessaire de prendre la parole, de le faire.
Et si vous ne passez pas le premier tour, vous ferez quoi au second tour ?
Il y a des chances qu'on ne passe pas le premier tour, parce qu'avec les règles qu'il y a...
Pour continuer à exprimer ce vote-là, le vôtre, qu'est-ce que vous comptez faire ? Est-ce que vous avez déjà établi une...
Eh bien, insister pour dire que c'est au premier tour que ça se passe, justement. Que c'est au
vous
premier
voterez pour
tour.
La liste la plus à gauche, c'est-à-dire probablement le Parti Socialiste ?
Ah, surtout une campagne du premier tour, parce que c'est là que nous pouvons faire entendre notre voix et que nous pouvons justement dire tout le mal que nous pensons de la politique du gouvernement socialiste. Hein, c'est une politique qui est dévouée corps et âme au patronat. Écoutez,
mais
le gouvernement,
les socialistes,
Hollande,
par exemple, et les républicains.
J'avoue, je ne vois pas de différence. Pour moi, il y a une continuité vraiment parfaite entre la politique qui a été menée par Sarkozy et celle qui est menée par Hollande, si ce n'est que
finalement Hollande
n'a fait que poursuivre le boulot démarré par Sarkozy. Donc à chaque fois, pour les travailleurs, c'est plus grave quelque part. À chaque fois, ça empire. La retraite est augmentée de quelques mois sous Sarko, de quelques mois sous Hollande, et puis ça continue comme ça, et puis ils vont prendre le relais. Moi, je ne vois aucune différence, et je le dirai au premier
dans
tour.
Dans ce cas-là, ça sera
c'est justement
blanc,
au premier
éventuel.
Tour. Bah, le deuxième tour se fera en son temps, mais voilà.
Déjà le premier tour.
J'insiste pour dire que justement, c'est vraiment au premier tour qu'on peut dire ce que l'on pense. Au deuxième tour, c'est fini, c'est fini. Au deuxième tour, on n'a plus que le choix entre la peste et le choléra. On n'a plus que le choix à choisir la sauce à laquelle on va être mangé. C'est ça qui va se passer au deuxième tour. Donc le véritable combat et l'occasion à ne pas manquer, c'est au premier tour.
Nathalie Arthaud, je vous propose de faire une pause musicale. On se retrouve dans quelques minutes. On va parler de vos idées pour la région Île-de-France.
L'hebdo politique, Nicolas Kirilovitz.
De retour en compagnie de Nathalie Arthaud, excusez-moi, dans l'hebdo politique, porte-parole de Lutte ouvrière et candidate au régional en Île-de-France. Dans les récentes interviews que j'ai pu écouter de vous sur différents médias, vous répétez que cette élection est en fait nationale. Pourquoi ? C'est pas une élection locale, en tout cas régionale.
Parce qu'elle a lieu dans tout le pays au même moment. Et parce que le soir même de ces élections régionales, vous verrez tous les commentateurs politiques faire le calcul des rapports de force politique et nous parler de 2017 et nous parler des chances.
Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont raison.
D'un tel.
Ça peut rester une élection locale régionale.
Ça veut dire que et c'est déjà comme ça d'ailleurs que cette campagne elle est menée. Hein, elle est menée en parlant de la politique nationale de tous les grands partis. Donc c'est une réalité. Donc c'est un combat politique national. Et ce combat politique national, eh bien, il faut absolument le porter à ce niveau-là.
Est-ce que ça veut dire que Lutte Ouvrière a un programme commun qui s'applique à toutes les régions également? Ou alors il y a des différences selon les territoires, selon les particularités?
Si nous avons des élus au Conseil régional, nous en avons déjà eu, en 98, eh bien, tout simplement, ils seront les yeux, les oreilles des travailleurs au Conseil régional. Et nous prendrons systématiquement position en faveur des mesures qui vont aller dans le sens des intérêts des classes populaires, et nous dénoncerons celles qui sont des cadeaux au patronat. Voilà, tout simplement. Pour nous, ce qui sera décisif, c'est de savoir est-ce que ça va dans le sens des classes populaires et qui paye. Et qui paye. Voilà, parce que nous pensons que le transport, la formation, c'est au patronat de payer. C'est au patronat de payer. Quand on voit que la difficulté des transports, quand on voit aussi finalement ces entreprises qui nous expliquent qu'il faut qu'on soit mobile, qu'il faut qu'on puisse se déplacer et qui imposent aux salariés de faire des fois 1h30, 2h de trajet pour venir travailler. Parce qu'en plus, les salaires qu'elles versent sont tellement bas qu'on ne peut même pas habiter autour de l'entreprise ou de l'usine, eh bien nous disons c'est donc au patronat d'organiser ces transports, de les payer, de les financer. Voilà, donc c'est clairement, on aurait une position clairement en faveur des intérêts des travailleurs dans ce conseil régional qui est quand même essentiellement organisé et dont les compétences sont faites pour servir le patronat.
Alors, on pourra revenir dessus. Sur vos idées, vous n'avez pas de site de campagne pour le moment. Pourquoi est-ce que ça va arriver?
Oui, ça va arriver. En fait, on est en train de refondre notre site internet. Et donc, dans le même temps, on voulait tout faire. Donc, il y a un retard de quelques jours, mais ça va se faire.
Pour la région Île-de-France, quelle est la priorité absolue, l'urgence? C'est quoi? C'est l'emploi sur la région Île-de-France?
Ah mais pour les travailleurs, sur la région Île-de-France, dans le département des Yvelines, bien sûr que c'est l'emploi, bien sûr. Bien sûr, c'est une nécessité absolue.
Comment on défend l'emploi justement en Île-de-France, avec quel type de mesures par exemple?
Mais justement, il s'agit pour nous de populariser cette idée qu'il faut interdire les licenciements.
C'est ce que vous avez dit récemment d'ailleurs à une réunion, une conférence débat avec le MEDEF Île-de-France. Vous avez proposé d'interdire les licenciements et de baisser le temps de travail. Est-ce que c'est des mesures qui vont permettre concrètement de défendre l'emploi? Est-ce que c'est sérieux quand on dit interdire les licenciements? Est-ce que c'est possible en fait aujourd'hui, dans notre société d'aujourd'hui?
Souvent on me fait ce procès-là en disant mais ce n'est pas réaliste. Mais regardez la politique réaliste du gouvernement et de la droite depuis des décennies, c'est de nous dire que pour lutter contre le chômage, il faut baisser le coût du travail, faire des cadeaux au patronat. Ça fait des décennies qu'ils ont des subventions, des crédits d'impôt, des baisses de cotisations sociales. Des décennies, la courbe du chômage n'a fait qu'augmenter. Alors vous voyez, cette politique réaliste, ça c'est, voilà, c'est ça leur réalisme. Leur réalisme, c'est de ne rien faire, de laisser le chômage exploser. Ben moi, mon réalisme, c'est des mesures de bon sens, de dire que ces grands groupes comme Renault, comme Peugeot, la grande distribution, les banques, elles doivent, on doit arrêter, on doit leur interdire de licencier. Vous savez, on parle beaucoup de la Société Générale. On nous explique qu'elle va fermer quoi, 300 agences sur le pays. 300 agences, c'est quoi? C'est 3000 emplois. Alors parce qu'elle va fermer des agences, elle va supprimer des emplois? Ben non, moi je suis pas d'accord. La Société Générale, elle fait des milliards de bénéfices. Elle doit conserver tous ses emplois. Ça veut dire autant de jeunes qui seront au chômage demain. Il faut qu'on arrête ça. Comment on fait pour arrêter une hémorragie? On met déjà un garrot. Et puis ensuite, oui, Moi, je pense qu'une mesure de bon sens, c'est de répartir le travail entre tous, c'est-à-dire de baisser le temps de travail de ceux qui
gagné
et qu'on
moins.
Embauche. Non, bien sûr, avec des salaires qui permettent de vivre, parce qu'un salaire mérite ce nom hein, de salaire, s'il permet de vivre quand même. Voilà, donc non, sans baisse de salaire, mais tout simplement en prenant sur les profits, en prenant sur les marges patronales.
Dans le débat d'aujourd'hui des 35 heures, faut-il allonger le temps de travail ? Vous vous dites complètement l'inverse.
Bah, complètement l'inverse,
les
bien
32
sûr.
Heures...
Nous, nous disons complètement l'inverse. Sur la flexibilité, sur le temps de travail. Moi, je suis pour que les dividendes ils soient flexibles. Je suis pour que ce qui est versé aux actionnaires soit flexible et puisse être vu à la baisse, justement, dans ces périodes de crise, dans ces périodes où le monde du travail est sacrifié. Vous comprenez, si, nous disons, on est, parce que c'est fini maintenant, hein, le gouvernement ne nous raconte plus d'histoire sur la reprise, hein, parce qu'à force, ça finit par lasser.
Donc, bah, apparemment, c'est ce qu'il
on reste dans la crise.
De dire...
Oui, enfin toujours
est-il. Une reprise 2015 en 2016,
oui, voilà.
Baisse du
c'est
chômage
comme la,
en 2016.
La version de la courbe du chômage, hein. Elle ne fait que reculer. Donc on est toujours dans cette période de crise. Ben, nous, nous disons que dans une période de crise, il faut sauver l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi ? C'est le travail, c'est la vie des classes populaires, de ceux qui sont à l'origine des richesses, et que les actionnaires, les banquiers, tous ces gens très fortunés qui ont des réserves, hein, qui ont des coffres forts, des comptes en Suisse, eh bien ces gens-là, ils peuvent attendre. Et ils doivent attendre. Donc il faut inverser complètement les choses. Et oui, nous disons que le chômage, c'est le fléau numéro un et que ce n'est pas une fatalité. C'est une question de rapport de force en réalité. Hein, c'est que, effectivement, ce chômage-là, il a pour corollaire, il a pour eh bien, les profits. Ben, nous disons baisse des profits. Et comme ça, il y aura moins de chômeurs, il y aura des embauches.
Une problématique de la région Île-de-France, c'est le manque de logements dans certaines zones. Vous avez des solutions pour y pallier ?
Mais là encore, hein, ce serait très simple. Hein. Écoutez, il y a du
ça
chômage.
Ça semble compliqué, mais vous dites que c'est simple.
Bah, il y a du
en
chômage.
Une mesure, on peut.
Il y a des maçons, des peintres, des ouvriers dans le bâtiment qui sont au chômage depuis maintenant des mois, si ce n'est pas des années. Il y a beaucoup d'argent dans les entreprises, beaucoup de cash, il y a même des milliards qui sont déversés dans la spéculation. Donc il y a des capitaux, il y a de la force de travail. Vous pouvez me dire pourquoi on n'arrive pas à investir dans le logement ? Parce que les capitalistes qui décident, ceux qui détiennent les capitaux, ne veulent pas investir dans le logement parce que pour eux, c'est un taux de rentabilité qui est trop bas. Donc il y a un
c'est
obstacle.
C'est à la région, à l'État de...
Bah, par exemple, l'État, oui, pourrait, y compris lui, construire en direct sans en passer par ces marchands de béton que sont Bouygues et Fage et qui prélèvent hein, leur profit sur ce marché-là. Ils pourraient. Et ça créerait des logements, ça créerait de l'emploi et ça résolve
du pouvoir d'achat.
Donc ça résoudrait beaucoup, beaucoup de problèmes, vous voyez. Mais si on reste dépendant de cette minorité capitaliste et de leurs décisions et de leurs choix, eh bien jamais ces logements seront construits, jamais, parce qu'ils ne veulent pas les construire. Alors voilà, bah oui, tout ça, il faut contester tout ça, contester le fait que tout doit passer par ces gens-là, parce que ces gens-là, ce sont des obstacles pour régler les problèmes auxquels on est confronté, voilà, qui sont devant nous. Donc, encore une fois, oui, il y a des solutions qui seraient très simples,
autre souci,
à condition de vouloir bien marcher sur les pieds de ces gens-là, de cette bourgeoisie.
Autre souci majeur de la région, typique de la région Île-de-France, c'est les transports. Les autres candidats sont très imaginatifs sur la question. Ils promettent tous une modernisation importante des transports en commun, la création de nouvelles lignes de bus, des investissements sur le réseau routier pour réduire les bouchons en Île-de-France. Quelle est votre position sur cette question des transports ? Qu'est-ce que vous proposez, vous ? Parce que c'est une problématique importante de la région Île-de-France. Il y a toujours des retards sur les RER. C'est encore arrivé cette semaine.
Non, mais évidemment, évidemment. Mais moi, je peux faire comme les autres. Hein. Je peux faire des promesses.
Là, c'est des solutions qui sont.
Je peux faire comme les autres.
Logique,
je peux faire des promesses.
Des propositions logiques.
En veux-tu ? En voilà. Bien sûr, c'est des propositions qui sont logiques. D'ailleurs, ils les partagent tous. Hein, ils disent tous qu'il faut rénover, qu'il faut augmenter les transports en commun. Ils le disent tous. Ils ne vont pas dire l'inverse. Moi, ce que je dis surtout, c'est attention aux promesses. Attention aux promesses qui n'engagent que ceux qui les croient.
Qu'est-ce que vous dites,
souvenez-vous,
vous, alors
souvenez-vous
pas de promesses,
des promesses de Hollande. Le lendemain, il a fait l'inverse. Bah, moi, ce que je pense, c'est que demain, celui qui sera élu au Conseil régional va nous expliquer que il n'avait pas mesuré tous les problèmes de financement et l'ardoise que lui avaient laissé ses prédécesseurs et que finalement, il va falloir attendre pour réaliser tout ce qu'il a promis. C'est ça qui va se passer. Donc il ne faut pas être dupe non plus. Il ne faut pas être dupe de ce cinéma, de ce cirque qui est en permanence la même chose.
Mais vous, lutte ouvrière, qu'est-ce que vous proposez du coup pour les transports en commun ?
Encore une fois, nous, lutte ouvrière, nous sommes bien sûr pour qu'il se développe et pour aller chercher l'argent dans les caisses du patronat. Mais on est bien conscient que ça ne se fera pas tout seul, ça. Ça se fera si, effectivement, il y a un rapport de force, s'il y a des luttes, s'il y a une force sociale qui s'élève pour cela. Parce que les choses se feront peut-être, mais à pas de tortue, et surtout en demandant aux gens de payer. Voilà, en demandant, c'est-à-dire aux travailleurs de payer. Et si on veut que ça aille plus vite et que ce soit le patronat qui finance, il va falloir se battre. C'est une question de rapport de force. Et ça se pose à l'échelle de l'ensemble de la société. À l'ensemble de la société, il faut effectivement inverser ce qui se passe aujourd'hui, où il n'y a que les travailleurs, que les classes populaires qui payent, où leurs intérêts sont sacrifiés, où on fait reculer le service public. Hein, parce qu'il y a le transport, mais il y a aussi l'éducation, il y a aussi la santé. On voit que quand même, c'est sacrifice sur sacrifice. Et quand ils nous parlent d'économie, c'est pas des économies pour les travailleurs. C'est autant de recul, c'est autant de sacrifices. Donc voilà, c'est une question de rapport de force à l'échelle de la société. Et de ce point de vue-là, voter pour les listes lutte ouvrière, hein, pour Thierry Gonod, qui sera la tête de section départementale dans les Yvelines, voter pour nos listes, c'est justement affirmer que les travailleurs sont conscients qu'il y a un combat à mener, qui a un rapport de force à instaurer contre ceux qui dirigent aujourd'hui.
Les problématiques sont aujourd'hui assez différentes selon qu'on se trouve à Paris, en petite couronne, mais principalement en grande couronne, comme dans les Yvelines ou dans l'Essonne. Est-ce que vous avez pour la grande couronne, pour le monde peut-être plus rural, un plan de bataille particulier à lutte ouvrière ?
Pas particulier, c'est le même. Mais encore une fois, moi, je ne vais pas faire ce petit jeu de promesses et de je vais refaire alors pas le monde là, mais la région pour vous demain. Hein, la réalité, c'est pas ça.
Mais pourtant, les réalités justement sont différentes selon qu'on se trouve par exemple dans le 94, dans le 93 ou dans le 77 ou le 78.
Oui, mais il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que ces conseils régionaux, ils fonctionnent pour répondre aux besoins d'abord et avant tout des entreprises. Et moi, c'est ce qui m'a frappé quand j'ai effectivement participé à ce débat, hein, où tous les candidats étaient invités.
Du débat avec le MEDEF Île-de-France.
Avec le MEDEF Île-de-France. J'ai pu constater que Valérie Pécresse, qui veut mettre en place une région pro-business, comme elle dit, que le Parti Socialiste, avec Bartolone, qui veut mettre en place une région au service des entreprises, et que Valérande Saint-Just, le candidat du Front National, expliquait qu'il voulait une région stratège au service des entreprises, sont tous partis là pour justement servir la soupe au patronat régional, à la bourgeoisie locale, et que toutes leurs décisions qu'ils prendront à la région seront des décisions qui serviront les intérêts de ceux-là d'abord et avant tout. Voilà. Et ben nous, on agira exactement de façon inverse. Pour nous, ce sera les intérêts des petits, les intérêts des travailleurs, des chômeurs, des petits
des
qui
prévaudra. Des petits, mais qui travaillent dans des entreprises qui peuvent être peut-être plus grandes.
Oui, mais vous comprenez, quand on subventionne, la région, elle passe son temps à subventionner les entreprises, à faire les rocades qui leur conviendront bien, à refaire les routes pour elles, à leur donner des millions pour la recherche. J'ai entendu, mais écoutez, c'était impressionnant. Il fallait aider les entreprises à exporter, à innover, à former, il fallait les aider pour tout. Mais ces dizaines, ces centaines de millions, ces 5 milliards, hein, le budget de la région, en quoi ils rejaillissent sur les travailleurs ? Est-ce qu'il y a plus d'emplois qui sont créés ? Est-ce que les salaires sont augmentés ? Est-ce que les conditions de travail sont améliorées ? Non. Non, ça va, c'est à sens unique. Finalement, tout ça, c'est empoché par cette fraction, cette minorité de la bourgeoisie locale. Et nous le dénoncerons. Hein, nous pensons que la région, elle ne doit pas être au service d'intérêts privés, de ces intérêts-là. Elle doit être au service, effectivement, de la collectivité, à commencer par les classes populaires.
Les élections régionales se tiendront les 6 et 13 décembre prochains, soit en même temps que la COP21, la conférence internationale sur le climat, qui se tient à Paris du 30 novembre au 11 décembre. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'environnement, pour le climat, pour que ça rentre un peu plus dans le débat de ces élections régionales ? Ou alors, est-ce que vous le regrettez ?
Non, mais moi, je pense que là, le gouvernement, il veut se faire un peu comment dire...
C'est pour montrer qu'ils se préoccupent de la question environnementale,
mais,
selon vous ?
Mais bien sûr, il veut se faire valoir là-dessus. Il faut dire quand même que sur son bilan, il ne peut rien avancer de positif.
Hein. D'un point de vue environnemental, vous parlez ?
Il a échoué sur tout le reste, sur le chômage, sur l'économie, sur la reprise, il a échoué. Donc effectivement, là, il va essayer de se faire un peu briller autour de la COP21, mais tout le monde le dit, hein, et il le sait, ça va être effectivement des paroles, des belles paroles, des vœux pieux, et puis en réalité on va continuer à saccager notre planète parce que personne veut contraindre, en particulier les entreprises ou le transport, à respecter l'environnement. Ça nécessiterait des contraintes.
L'environnement, le réchauffement climatique, toutes ces questions, ces problématiques, est-ce que ça rentre de plus en plus dans les idées de lutte ouvrière, ce qui n'était pas forcément le cas à la base, ces problématiques-là n'étaient pas si importantes?
Ça a toujours été le cas. Y compris Marx a toujours défendu l'idée qu'il fallait préserver.
Mais encore plus
sûr.
Aujourd'hui.
Mais c'est le cas. Mais comment peut-on changer cela ? Comment peut-on contraindre les entreprises ? À chaque fois, on nous oppose le problème de la rentabilité, le problème de la compétitivité. Il faut surtout ne pas imposer plus de contraintes aux entreprises parce que ça va les gêner, etc. Regardez Macron qui remet des bus sur les routes. Mais ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte de se présenter cette image.
Ça permet la mobilité pour moins cher, en tout cas.
Oui,
en tout cas, c'est comme ça que c'est présenté.
Hein, la mobilité pour moins cher, moi, je la propose effectivement dans les trains, pour moins cher aussi, à condition qu'on prenne l'argent là où il est. Ce serait une possibilité. Mais ça, le gouvernement ne veut pas le faire. Alors, vous voyez, ce discours contradictoire, nous, ce problème de l'écologie, de où on va avec la planète, il est lié fondamentalement au fait qu'on respecte la vie des hommes, qu'on respecte leurs droits. Donc pour nous, il va de pair et il passe par la capacité des travailleurs déjà à revendiquer pour leurs droits essentiels que sont ceux d'avoir un logement, d'avoir un emploi, d'avoir un salaire digne. Pour nous, c'est un tout. C'est un tout, mais c'est une évidence que tant qu'on ne remettra pas en cause les profits, la rentabilité et cette domination de la bourgeoisie, on ne résoudra aucun des grands problèmes qui se posent à nous, ni celui du chômage, ni celui de l'écologie, ni celui des guerres ou de la famine dans le monde.
Pour terminer cette émission, je voulais savoir si ces élections régionales, c'est pour vous, pour vos idées, pour vos valeurs, un test grandeur nature avant les présidentielles de 2017. Est-ce que c'est un tremplin ?
Ça sera un petit test, mais surtout, ça sera une possibilité. Une
de
possibilité,
s'exprimer déjà.
Pas seulement pour nous, lutte ouvrière, de nous exprimer, mais pour tous les travailleurs, les chômeurs, les ouvriers qui veulent l'ouvrir, hein, qui ne supportent plus effectivement tous ces mensonges qui sont dits du côté du patronat, de ces gouvernements, tous ceux qui veulent dire tout le mal qu'ils pensent de la politique du gouvernement socialiste, l'occasion de le dire et de mettre en avant justement leurs besoins, leurs exigences.
Vous
Donc
là,
ça sera la possibilité pour eux de s'exprimer.
Pour les représenter.
Eh bien,
même si vous n'aimez pas parler du...
Il y aura un candidat ou une candidate de lutte ouvrière en 2017, ça c'est sûr et c'est certain. Moi je m'y prépare, mais c'est mes camarades qui décideront. Et ça, on le décidera lors de notre prochain congrès qui aura lieu en mars.
L'hebdo politique, Nicolas Kirilovitz.
C'est la fin de cette émission. Merci Nathalie Arthaud d'avoir
Merci.
Répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes porte-parole de Lutte Ouvrière et candidate au régional en Ile-de-France pour Lutte Ouvrière également. Vous pouvez retrouver cette émission podcast audio et vidéo sur radiosensation.fr. Bonne fin de soirée et bonne semaine à tous à l'écoute de Radio Sensation.
L'hebdo politique, Nicolas Kirilovitz.